Et bonjour à tous, c'est Jean-Baptiste des Indécents et je suis avec Julien Schneider. Comment ça va?
Ça va très bien, merci, et toi-même?
Bah écoute, ça va bien parce que tu as un super micro et ça fait plaisir parce que des fois c'est un peu difficile niveau audio et là c'est chouette, on t'entend bien. Alors comment ça se passe là ces derniers temps? T'as eu le temps d'écrire un peu? T'as eu le temps de faire des projets ou pas?
Ah oui, des projets, oui. Là, je bosse sur le chapitrage d'un autre roman, un peu la suite de ce que j'ai fait là. Donc, une sorte de quatrième, cinquième tome. On verra bien. Donc,
Ouais.
des petites prises de notes, des petites recherches
Ok.
d'infos. Voilà.
Ok, le travail d'écrivain, on va revenir dessus d'ailleurs. Mais j'aimerais bien un peu qu'on se concentre d'abord là sur Le Seigneur Maudit, qui est justement édité chez Ogmios Édition. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'en avais parlé dans le livre et jeu, justement, où j'avais croisé avec La Légende des Cinq Anneaux. On va en reparler un peu plus tard. J'avais d'ailleurs une petite question à te poser. Comment est-ce que tu as fait pour construire l'histoire? C'est-à-dire au niveau inspiration, le temps de réalisation, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps, pas beaucoup? Est-ce que d'un coup les personnages sont venus comme ça?
Alors, ouais, ça a été assez assuré en fait, parce que si tu veux, j'ai commencé l'histoire en 2015. En 2015, je viens de finir la trilogie de David Gemmell 3. Je sais pas si tu vois, c'est un peu l'Iliade d'Homère, mais vu de manière très concrète. Voilà. Et je me suis dit que ça manquait, ça, d'un bouquin un peu concret autour du Japon, parce que je pratiquais déjà les arts martiaux. Et j'avais gardé cette idée en tête. Et il y a eu un drame familial qui a fait que j'avais besoin d'un peu de me défouler. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire une histoire avec plein de sang. Voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite nouvelle avec une histoire de samouraï qui va dézinguer du méchant brigand. Et en fait, cette histoire, je l'ai un peu retravaillée, mais ça donne le prologue du Seigneur Maudit. Et à la fin de cette histoire, à la base, je voulais pas mettre de fantasy du tout, voilà. Et je voulais pas mettre de fantasy, pas de magie du tout. Ça m'est venu juste à la fin. Bon, je l'ai mis. On verra bien ce que ça donne. Et en fait, à partir de là, dès que j'ai fini, il me manquait quelque chose. Donc c'est là que j'ai continué. Et petit à petit, l'histoire s'est mise en place comme ça. Et voilà. Donc j'ai écrit le tome 1 en 7-8 mois de mémoire. J'essaie d'écrire très régulièrement et puis ensuite j'ai laissé venir le tome 2 où là j'ai essayé de construire un peu plus l'histoire et pareil pour le tome 3. Donc là j'étais moins dans l'impro et plus dans la construction.
Ok, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça t'a
Voilà.
servi de base solide, le 1, enfin, solide dans le sens où ça t'a donné confiance en l'univers, ça t'a donné confiance en tes personnages, et du coup, tu t'es dit, bon, allez, cette fois, on boucle tout bien et on fait tout ce qu'il faut. Tu parlais justement du fait que tu utilisais. Ouais, tu voulais intervenir?
Ah non, 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 c'était juste pour dire, je pensais justement que quand tu disais une base solide, voilà. Je trouvais que le tome 1, justement, la base solide, c'est une histoire assez classique quelque part. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont revenus là-dessus pour me dire ça. Et oui, c'est vrai, et en même temps, c'est ce qui m'a permis de prendre un peu plus de liberté par la suite, à faire des choses un peu plus perso après. Voilà.
Bah, c'est-à-dire qu'après, de manière générale, classique, ça ne veut pas automatiquement dire pas construit, ça ne veut pas automatiquement dire pas punchy. Et des fois, les trucs les plus classiques sont les choses qu'on apprécie le plus à lire ou à regarder, hein,
Oui.
finalement. Et puis même dans le classique, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a toute une culture du Kurosawa, par exemple, il y a des références à ça, et c'est top, du coup.
Ah oui, non, Kurosawa m'a énormément marqué. Le No aussi, je te dis en 2015, ouais. J'ai toujours eu un peu toujours lu beaucoup de livres sur le Japon, donc là-dessus, Kurosawa, le travail de Kitano aussi. Tu vois, je tombais sur les films Hanabi ou même l'été de Kikujiro où t'as cette empreinte-là, cette sobriété et puis l'impact à chaque fois de la simplicité japonaise. Donc tout ça, voilà, ça faisait bien 10 ans que j'étais plongé dedans. Donc forcément, ça impacte. Et pareil, le livre de David Gemmell, les livres d'ailleurs, surtout les combats. Je sais pas si toi t'es lecteur de David Gemmell,
Ouais.
mais je trouvais toujours que ses
Ouais.
combats à l'épée étaient très bien faits. On avait vraiment l'impression que le gars savait de quoi
Ouais,
il
ouais.
parlait, quoi. Et du coup, voilà, moi c'est un peu ce qui me manquait dans les livres de fantasy
Puis
japonaise,
ben, je crois qu'il a été videur dans une boîte de
quoi.
nuit,
Ouais.
donc il sait combattre, quoi.
Ouais, voilà, le gars faisait 2 mètres. Lui-même, il a été élevé.
Le mec, il sait un peu faire.
Ouais, il a été élevé par un ancien GI ou un ancien de l'armée anglaise, je crois. En guise de beau-père, en fait. Le gars avait fait 3 débarquements. Et ouais, c'était le genre de gars un peu concret, quoi. Et il le marque, il le dit dans je sais plus quelle interview, justement, il s'est inspiré de son beau-père pour écrire Druss, pour le personnage de Druss. Donc on voit un peu le gars, ouais, physique.
Ok, ah ouais, Druss la légende, ouais.
Exactement. Mmh. Donc voilà, le gars concret, le gars physique, terre à terre, et qui sait de quoi il parle, quoi. Voilà, donc ça me manquait un petit peu, parce que les livres japonais que je lisais, c'était au niveau des, comment dire, des combats au sabre, surtout... ça manquait d'explication. C'était, comment dire, c'est justement là où Kurosawa a
ouais.
travaillé.
Mais c'est souvent très, très net, en fait. Mm. C'est en un coup, il meurt.
Voilà. Et moi, j'ai toujours en tête ce duel à la fin de Sanjuro. Le duel entre le personnage de Toshiro Mifune et son ennemi, quoi. Où ça se passe en un claquement de doigts, quoi. Et puis, c'était fini. Il n'y avait pas le droit à l'erreur, quoi. C'était pas les combats où on entrechoque les sabres pendant 20 minutes, quoi.
C'est ça. Mais quand tu vois, justement, je crois, dans le traité des 5 anneaux, justement, il y a tout un passage où ils expliquent dans la préface, bon, une des préfaces de l'ouvrage, justement, comment le maître samouraï, en fait, il arrivait souvent à gagner ses trucs avec des petites astuces au début. Par exemple, le fait de se mettre du côté du soleil, le fait d'énerver son adversaire, et qu'en fait, en un coup, il le tuait, parce que bah, sinon, il n'avait pas la capacité de le faire non plus, de l'emporter d'un seul, enfin, sur une longue durée, en fait, au niveau du combat.
Ouais, et puis les sabres japonais n'étaient pas faits pour ça, à la base.
Oui. Ils sont pas assez, comment dire, résistants, la lame.
Ouais, non, bah c'est souple, hein, quand même, la lame d'un katana. C'est pas l'acier 440 qu'on connaît, nous, quoi. Hein, donc là-dessus, vous pouvez pas se permettre d'entrechoquer les lames pendant 20 minutes, quoi.
D'ailleurs, j'en profite, je vois avec quelle précision tu nous parles de l'acier japonais, avec quelle précision tu nous parles des combats. J'aimerais savoir, justement, par rapport à l'écriture du Seigneur de Maudit et également peut-être d'autres ouvrages que tu vas proposer plus tard, comment tu as construit la relation entre le Japon médiéval, cette connaissance assez précise que tu as quand même, et un récit de fiction? Comment est-ce que tu as trouvé l'équilibre entre les deux? Parce qu'on le voit, il y a des termes quand même vachement techniques qui sont proposés, etc.
L'idée de base, c'était de garder quand même une base historique. Donc je sais que je savais à quel moment de l'histoire japonaise j'étais, et je savais aussi quels arts martiaux sur lesquels je pouvais me baser pour parler justement de ça. Donc à partir de là, ben je suis un peu parti comme dans trois, c'est-à-dire que je suis parti d'une base historique et j'ai juste rajouté des personnages qui pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Donc j'essaye de m'y coller, des fois je prends des libertés. Mais c'est un peu comme si c'était un petit monde parallèle où il se passe grossièrement la même ligne rouge, mais autour de ça, ben, on a des petites variations qui font que... Voilà. Je veux dire, ouais, je peux pas non plus spoiler, mais...
Ok. Bah, en fait, c'est un peu comme... je crois que c'est Dumas. On peut violer...
Oui, on peut... Ouais, c'est cette citation.
On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants, donc c'est pas grave si de temps en temps il y a des...
Voilà, bon, je me comparerai pas à Dumas non plus. Si, c'était Dumas, ouais, mais bon, voilà, sans faire de comparaison, hein, on va pas aller jusque-là. Mais oui, je me suis juste dit, bon, bah, après tout, je fais ce que je veux, c'est
ouais,
mon bouquin.
Restons,
voilà, c'est ça quand même. Mais voilà, ouais, non, je me suis juste dit, voilà, je fais ce que je veux. Ouais. Après, j'essaie de m'y coller. Dans le prochain livre, c'est un peu pareil. Je me suis basé, ça se passe dans une petite ville au Japon. Et le château autour duquel j'ai écrit mes chapitres existe pour de bon. Sa particularité architecturale aussi. L'histoire autour aussi. Mais je me suis dit, tiens, ben, je vais faire ça. Et puis, bon, tant pis.
Ouais, mais c'est cool. Après, de toute manière, ça fait toujours plaisir d'avoir une base réelle.
C'est ça, et puis on s'identifie mieux.
Tant que c'est pas le château de l'araignée, c'est bon.
Voilà, bon, encore que je m'en suis inspiré aussi, forcément. Tu peux pas parler de... Tu peux pas parler... Enfin, comment dire,
Ah bah, de toute façon, faut dire, c'est une œuvre tellement...
Voilà, bon, alors perso, en plus, j'ai fait mon... C'est un des films sur lequel j'ai basé mon travail en Master 2 sur le Japon. Donc le château de l'araignée, ouais, j'ai fait quelques petits ouais. Easter eggs de Kurosawa au fil des trois livres.
Ah bah ça c'est pas mal pour les spécialistes de Kurosawa, ça peut être l'occasion de relire les livres.
C'est ça. Si on veut s'amuser, bon après c'est des petits trucs, je suis quasiment sûr que personne ne les trouvera. Hein.
Bien, nous avons parlé principalement là du coup du Seigneur Maudit, du rapport justement avec le Japon médiéval, le travail que tu as fait par rapport justement à tes recherches personnelles. J'aimerais maintenant qu'on ouvre un peu plus et qu'on se questionne sur l'écriture en général, le travail d'écrivain, comment ça se passe. Est-ce que tu aurais par exemple un rituel d'écriture ?
Alors, niveau rituel, ce que j'aime bien faire, c'est que si je me lance dans un projet, il faut que j'écrive très régulièrement. Et là-dessus, j'essaie d'écrire un minimum de mots par jour, en fait. Je m'impose 1000 mots par jour. Et souvent, si j'essaie de faire plus, c'est pas bon. Donc, voilà, il faut que vraiment que j'écrive régulièrement. Et puis, je rumine beaucoup. C'est-à-dire que dès que je peux, je réfléchis à une idée, je la jette à la poubelle et j'essaie de trouver autre chose. Je me force à trouver autre chose pour essayer de, comment dire, d'améliorer mon texte, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première étape.
Ok, donc en gros, c'est tu travailles la plastique de l'histoire et... Ok.
Voilà. Mais
Donc vraiment, il y a un travail continu sur l'ouvrage.
Ouais, c'est ça. Donc là, comme je te disais, j'ai commencé le chapitrage d'un nouveau roman. Je sais que quand je vais me mettre à l'écriture proprement dite, il va me falloir... faut que je sache que dans le mois qui suit, minimum, je vais pouvoir vraiment lancer la machine... avec maximum un ou deux jours sans écrire, mais pas plus. Je dois être sûr de pouvoir écrire en continu le plus longtemps possible. Donc sans être dérangé par le boulot ou par d'autres obligations.
Du coup, par rapport à ça, pour savoir quel est le rapport entre justement le travail d'auteur et le travail tout court. C'est-à-dire, est-ce que tu as réussi à augmenter le temps d'auteur et diminuer le temps de travail ? Est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que, au contraire, c'est du temps volé que tu récupères quelque part ?
Ouais, j'essaye de gratter dans l'emploi que j'ai à côté, parce que je suis formateur en MFR, donc c'est un peu l'équivalent de prof dans un lycée agricole. Mais du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que parfois on a des, comment dire, je m'occupe de l'éducation socioculturelle en plus du français. Et de fait, là, mon travail d'auteur, il me sert d'appui. C'est-à-dire que quand je vais demander à un jeune de se lancer dans l'écriture, pour lui dire que ça fait du bien, pour lui dire que aussi c'est utile, même quand on va devenir bûcheron, parce que pour le coup, c'est des futurs bûcherons que j'ai en face, entre autres. Voilà, je suis concret, c'est réaliste, ils savent que je sais de quoi je parle. Et quand on fait un travail d'écriture avec des intervenants professionnels, donc là, on a entre autres Michel Jacquet, qui est auteur de BD, ou des gars d'une scène de Saint-Étienne, hein, Le Fil. Donc, voilà, c'est concret, quoi. Et les jeunes, quand je leur demande d'écrire, de se livrer pour de bon, de jouer le jeu, ils savent que j'ai fait cette part-là, et que c'est pas juste des paroles en l'air. Après, bon, quand je peux, quand je dois surveiller 4 heures de suite un brevet blanc...
Ouais, tu sais vraiment le maîtriser, quoi.
Ouais. Puis quand je dois surveiller 4 heures de suite un brevet blanc, si je viens avec mon petit cahier pour prendre des notes quand j'ai une idée, ça les dérange pas plus que ça. Limite, ils sont curieux, donc ils viennent me demander de quoi qui est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai fait beaucoup de morts aujourd'hui, un genre de bêtises, quoi, parce que c'est des ados de la 4e à la terminale, donc ça peut... Voilà, c'est... Ça les intéresse aussi, et puis ça me permet moi aussi de comprendre un petit peu mieux les délires dans lesquels ils peuvent se projeter dans leur écrit, parce que des fois je leur laisse carte blanche, et ça part sur des histoires d'horreur aussi, ce qui est assez marrant, parce qu'ils ont des idées, et on leur a toujours dit que c'était mal.
Ouais.
Donc voilà, je casse un peu ça, et puis ils se rendent compte que finalement l'écrit ça peut vraiment au moins servir de défouloir. Et moi, ça me fait plaisir parce que des fois, ils ont des idées, ils m'emmènent sur des histoires auxquelles je m'attendais pas. Quoi.
Mais d'ailleurs, sur la question de défouloir, toi, t'es le premier à l'avoir utilisé comme ça au début, hein, avec cette fameuse nouvelle qui a lancé Le Seigneur Maudit. C'est cette idée-là, c'est l'écriture comme expression totale de ce qu'on a à l'intérieur et on lâche, quoi. On y va, on se balance.
Ouais, c'est la catharsis, hein. C'est vraiment pour un exutoire. Et je sais que je fais ça depuis quasiment le début parce que quand j'ai commencé à écrire, j'avais 15 ou 16 ans et j'écrivais des histoires d'horreur. Et donc, quand c'était quelqu'un dans mon collège ou mon lycée qui me cassait les pieds, il y passait sur le papier, quoi. C'est moins salissant, c'est légal, donc voilà, ça passe bien.
Petit coup de tronçonneuse. C'est ça. Sauf dans un last note, mais bon, ça c'est une autre affaire.
les gars qui m'emmerdaient comme ça, c'était pas le genre à me demander de lire mes histoires après, donc je pouvais marquer ce que je voulais, ils étaient jamais au courant.
C'est ça l'avantage, hein. C'est une sorte de journal intime de nos pires, voilà. De nos pires côtés, mais on n'a pas fait de mal, c'est écrit, c'est tout.
Non, mais j'ai eu une prof, Madame Pingercard, au lycée, qui lisait mes histoires et qui me les corrigeait. Et elle savait de qui je parlais. Donc elle, ça la faisait marrer, mais elle en disait pas plus.
J'en profite du coup maintenant pour faire un petit peu de parallèle avec le jeu de rôle, parce que bon, indécent podcast indécent, on a parlé d'horreur, donc c'est indécent. Maintenant, le dé à s'en face, le jeu de rôle. On en a discuté un peu avant l'interview. Toi, t'es plus jeu de rôle grandeur nature que jeu de rôle plateau. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience en tant que géniste justement, et en quoi ça a pu t'inspirer peut-être pour de l'écriture?
Alors, mon expérience de GN, justement, elle s'est faite un peu au moment où je rencontrais un joueur de jeu de rôle, Griffon, pour le coup, et lui-même préparait un... Il voulait faire un GN japonisant. Alors, moi, je ne connaissais rien, ni au GN, ni au jeu de rôle, et je devais avoir 24-25 ans. Donc, ça se faisait pas du tout autour de moi. Et en revanche, le Japon, lui, je connaissais bien. Donc, que ça soit par le no ou autre, ou ma pratique, parce que j'ai fait du jujitsu, de l'aïkido, ce genre de choses. Et donc, il me proposait de venir dans son équipe d'orga pour le GN. Et bah, du coup, je connaissais rien du tout à ça. Et pour me faire une idée plus précise, il m'a invité à un GN japonisant d'ailleurs, autour de Toulouse. Et bah, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle Grandeur Nature. Et après ça, bah, il m'a invité à un jeu de rôle sur table, à une petite partie. Mmh. Et, de fait, c'est vrai que bah, j'ai plus accroché au GN, où il y avait ce côté théâtral qui me plaisait beaucoup. Alors que le jeu de rôle, je le sentais moins autour d'une table. Même si ça avait gardé un côté très sympa. Mais de fait, comme je suis resté dans le GN, bah, il y avait toujours un peu de jeu de rôle pas loin. Et en ce moment, et depuis quelques années, comme je peux moins faire de GN, bah, je fais un peu plus de jeu de rôle. Bon, bah, là, c'est un stand-by, évidemment, parce qu'on préfère... Préfère se voir de visu plutôt que faire ça par visio.
Ouais, c'est un peu galère. Mais,
voilà, donc là-dessus, bah, là, on est sur une campagne Donjons et Dragons. Et je suis peut-être, hormis le MJ, le plus expérimenté de la table. Ce qui fait que, ouais, ça donne lieu à une campagne qui se prolonge un petit peu. Où on prend ça pas tout à fait au sérieux, mais c'est bon enfant et on s'amuse beaucoup et ça nous manque. Hein, ça nous manque vraiment.
Oh, c'est le but du jeu de rôle, voilà.
Oui, c'est.
Mais tu m'étonnes. Retrouver son personnage, revivre avec, revivre ses aventures, retrouver des personnages non joueurs récursifs, ça peut être chouette quand même, comme expérience toujours.
Alors moi c'était juste, ce qui me fascine beaucoup c'est le boulot de MJ, ça m'impressionne énormément parce qu'il faut s'adapter tout le temps. Il y a cette partie théâtrale qui est là, et puis je pense qu'il faut une grande patience, surtout quand on est dans une table de newbie comme nous, alors que le MJ en question c'est déjà quelqu'un qui a un peu plus de, comment dire, plus d'expérience quoi, voilà.
Est-ce que ça t'aurait pas donné envie, justement, soit d'écrire la partie de jeu de rôle que tu suis avec tes amis, ou alors peut-être l'idée de te dire, ben voilà, tester une histoire que j'ai créée, la faire jouer par des joueurs et voir un peu ce que ça donnerait s'ils incarnent ces personnages, est-ce qu'ils auraient fait les mêmes, trouvé les mêmes solutions que moi j'aurais imaginé, etc. Est-ce que ça t'est venu à l'idée? Est-ce que tu te dis, ouais, ça peut être testable, ou alors absolument pas du tout, parce que ça a rien à voir, tu vois?
Alors non, j'y ai pas du tout pensé, mais je me dis que ce serait très sympa à faire. Après, il faudrait que je trouve un univers qui intéresse les quelques joueurs que j'ai autour de moi, parce que c'est vrai qu'ils sont pas trop... Ils me soutiennent dans ma trilogie, mais ils sont pas vraiment sur cet univers japonisant. Là, on fait un Donjons et Dragons bien classique, mais le concept peut être très drôle. De baser tout un roman là-dessus, sur ce qui peut se passer sur la table, avec des dés... Ça peut être très drôle, ça me fait penser à Philippe Cadic, qui a fait son roman Le Seigneur du Haut-Château, comme ça, en se basant uniquement sur les prédictions d'un système chinois, je saurais plus le dire lequel, mais il a écrit tout son roman comme ça. Ça peut être vraiment intéressant
à faire.
Ça peut
être intéressant, franchement, ouais. Comme ça, avec même du système aléatoire, ça peut être drôle. Mais il y avait Raymond Efface, justement, qui a écrit... des histoires par rapport aux parties de jeu de rôle qu'il a fait, mais bon là c'était ultra romancé, il a tout retravaillé, c'était plutôt une base première quoi, mais c'est vrai que pourquoi pas. Justement, dernière petite question, et après on terminera là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu justement, j'avais fait un parallèle avec La Légende des Cinq Anneaux, justement, de FF Games, qui est un jeu de rôle japonisant un peu fantastique, qui était réputé justement pour son travail énorme sur le système de jeu et sur l'ambiance japonisante et orientale, vraiment avec ce système d'honneur, ce système de caste et de différentes familles avec la famille de la grue, la famille du lion, etc. Est-ce que tu penses que justement on pourrait le mettre en relation avec ton livre, ou est-ce qu'au contraire tu aurais dans des objets culturels différents, que ce soit des films, des livres ou des jeux de rôle, si tu en as déjà lu en Japon fantastique, s'il n'y aurait pas plutôt des trucs qui soient un peu plus proches de ton histoire que ça?
Du coup, oui, La Légende des Cinq Anneaux, bah, j'en ai un peu plus entendu parler quand toi, en regardant ta vidéo, en fait. Parce que jusqu'ici, c'est vrai que j'avais entendu parler de l'Empire des Cerisiers, via justement mon éditeur.
Ouais, mais... qui est très bien.
D'accord. Mais bah, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai quelques potes de jeux de rôle, mais j'ai surtout des potes qui jouent tout ce qui est jeux ludiques. Et bah, c'est vrai que tu parles d'autres objets culturels, voire développer un de mes romans sur un jeu de plateau, ça peut être sympa, ou en GN aussi, ça pourrait être très drôle. En jeu de rôle, pourquoi pas, mais je sais que j'ai pas la bouteille suffisante pour lancer ça. Du coup, ça m'intrigue autant que ça me fait peur un petit peu.
Ouais, c'est compréhensible, parce que le système de règles, souvent, c'est difficile à mettre en place, on se demande si on va pas retomber sur des trucs déjà faits, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu galère. Mais ouais, donc pourquoi pas même une sorte de micro-jeu de rôle, un jeu de plateau. Et c'est vrai que ça aurait pu être un jeu de plateau où tu massacres des gens dans la forêt avec un katana et t'as une jauge de sang qui monte.
Mais carrément.
C'est bien. Je pense qu'on en a assez dit. Bah, écoute, Julien, merci beaucoup pour cette je vais y arriver. Merci beaucoup pour cette interview. C'était super. Tu nous as donné pas mal d'informations.
Merci à toi.
Et puis, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos auditeurs / visionneurs YouTube? Merci.
Bah écoutez, non, je vous souhaite déjà une bonne lecture, ça ferait déjà vraiment plaisir. Et puis ben, j'espère surtout que pour tous ceux qui ont lu le premier tome, que la suite va vous plaire.
Bah écoute, moi j'attends la suite, en sachant également pour ceux
et
qui...
Et donc voilà, bah, merci à tous ceux qui ont compté l'expérience. Ouais.
En sachant que donc ton livre est disponible en version normale, on va dire... couverture cartonnée, en version couverture avec de la toile, et en version numérique également. Donc voilà, c'est ça. Je crois que j'ai rien loupé, il n'y a pas d'autre...
C'est ça.
Ça marche. Bah écoutez, à très bientôt, et encore merci.
Merci.